Alors on va aller un peu plus loin dans l'épître aux Hébreux. Mais d'abord, j'aimerais dire, c'est pas nouveau, mais c'est toujours vrai, je le vis régulièrement, combien je suis heureux et fier d'être avec vous. C'est vrai, hein? J'étais, merci. Non, j'ai trouvé tellement beau ce début de rassemblement ce matin. Juste pas faire comme d'habitude parce que c'est encore un dimanche. Et puis voilà, d'avoir la liberté qu'il peut y avoir, mais aussi l'authenticité qu'il y a. Et ça me touche beaucoup et ça me plaît. Je suis heureux d'être ici. J'aimerais lire dans quelques versets Hébreux 10, de 18 à 25. Et je vous le lis, c'est la traduction Second. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, alors quand ça dit frère, il faut dire sœurs et frères. Hein? Voilà. Ainsi donc, mes sœurs et mes frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement, et faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors on va progresser doucement dans ce texte. J'aurais dû vous le mettre derrière, mais je n'y ai pas pensé. Alors j'espère que vous l'avez. Si vous avez éventuellement vos téléphones ou vos bibles, gardez-le ouvert. Il y a tellement de choses concentrées dans si peu de phrases que ce n'est pas évident. Vous vous rappelez quand même, je pense, pour la plupart, et puis vous savez de toute façon, vous connaissez un peu le contexte, on avait vu ce petit schéma du tabernacle, hein, avec ce lieu très saint, là, avec tout le processus pour entrer, je ne vais pas reprendre tout ça, et puis ce rideau derrière lequel le souverain sacrificateur, une fois par an, avec la tenue spéciale, etc., etc., pour rentrer là. Ouais. Ouais. Hébreux 10, 18, 25. Merci. Et là, donc, il est dit, là où il y a pardon du péché, verset 18, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Juste cette phrase-là, elle fait tomber tout un système énorme qui nous est décrit dans... Voilà, vous l'avez, hein, cool. Qui était décrit dans tout le Lévitique et dans tout l'Ancien Testament, qui est pratiqué dans le tabernacle, dans le temple. Hein, un rituel incroyable avec du sang, avec des animaux, avec des prêtres qui se changeaient. Avec, hein, et tout ça, ça tombe, pas parce que c'est plus valable, mais parce que c'était l'ombre des choses à venir et que Christ a balayé tout ça en prenant tout sur lui. Hein. Il y a pardon des péchés. Du coup, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est obsolète. Pour une fois, on est content de l'obsolescence programmée. Hein. Tout ce temple avec tout ça, pouf, ça ne sert plus à rien. Hein. Ça a été réellement accompli par Christ. Et on a une libre entrée dans le sanctuaire, donc la présence de Dieu, comme on a parlé ce matin, hein, qui est réelle pour nous dans notre esprit, et puis qui va être encore plus réelle dans le sens où il n'y aura plus la barrière de ce monde-ci quand on va entrer dans la vie d'après. Une route nouvelle et vivante, hein, donc effectivement, ce n'est pas par la mort qu'on rentre pleinement, mais c'est par la vie, hein, qui se continue. Au travers du voile, donc qui était cette illustration de ce voile qui, rappelez-vous, lorsque Christ est mort sur la croix, il s'est déchiré dans le temple, hein, en vrai, le vrai morceau de tissu, et il s'est déchiré du haut vers le bas. Dieu a dit, c'est plus la peine. Il n'y a plus de rideau. Accès libre. Pas parce qu'il est moins saint qu'avant, mais parce que nous avons été déclarés justes et parfaits. Une route nouvelle, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, ben, sa chair, dans ce cas-là, ça parle de l'offrande de sa vie, de son corps, de son être, de tout ce qu'il était. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, donc Christ, voilà, on arrive au verset 22, qui est ce qu'on va développer un peu ce matin, approchons-nous donc, on est appelé à s'approcher de Dieu. Alors bien sûr, Dieu est omniprésent, il est partout. Si on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'un jour on a eu cette reconnexion qui a été faite par l'Esprit de Dieu qui nous a vivifiés une première fois, on est toujours connecté à Dieu. Hein. Mais c'est un petit peu comme là, en ce moment, mon téléphone que j'ai laissé derrière Caroline, en silencieux, il est connecté. Mais justement, il est en silencieux et je ne suis pas en train de m'en servir. Hein. Donc oui, il est connecté. Il y a tout qui rentre, qui sort, si on m'envoie des messages, ils sont là, etc. Mais moi, je n'en suis pas conscient, heureusement, pour le moment. C'est exactement comme ça avec Dieu. On a été connecté par la nouvelle naissance. Son esprit est en nous, on ne peut pas le perdre. C'est son esprit qui atteste au fond de nous que nous sommes enfants de Dieu. La connexion est là. Puis celle-là, Thomas, je te rassure, les ondes ne sont pas dangereuses. Malheureusement, souvent, même connecté, il est même pas en vibreur, en mode silencieux, même pas dans notre poche, quelque part sur une étagère. Hein. Alors, avec nous, mais voilà. Donc, approchons-nous donc, il y a une décision. Hein. C'est un encouragement, c'est presque un ordre, mais bien sûr, c'est voilà, un ordre qui a la même valeur que quand un pasteur dit « J'aimerais que vous lisiez tel texte ». Chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pareil pour moi. Mais approchons-nous donc hein, avec un cœur sincère. Sincère, c'est peut-être pas la meilleure traduction. Un cœur véritable, authentique, conforme à la vérité et surtout entier. En gros, venons comme nous sommes, avec tout, voilà, tout notre cœur. Hein, pas juste un peu là et un peu là. Hein. Un des travaux de Dieu dans nos vies, c'est de nous rassembler. On va voir à la fin comment le dernier verset que j'ai lu comme il est écrit dans le texte est à la fois mal traduit et mal utilisé souvent. Mais Dieu aime le rassemblement des choses, parce que lui est uni, hein, dans ces trois personnes qui sont trois distinctes mais qui sont un, et nous sommes appelés à être unis avec lui, les uns avec les autres, mais aussi unis avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui est très très important, parce que si je m'approche de Dieu avec mon cœur partagé, c'est pas bon. Et puis souvent, on a l'impression qu'on peut s'approcher de Dieu qu'avec ce qui est bon en nous. Parce que pourquoi je partage mon cœur quand je m'approche de Dieu parce que je me dis, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et puis, je mets ce qui est pas bien là ou dans le placard, je ferme la porte et puis je pense que Dieu le voit pas, bien sûr, parce que voilà. Et je m'approche de Dieu avec le bout de cœur qui me paraît présentable. Mon bout de cœur qui me paraît présentable, il est aussi pourri que celui qui me paraît pas présentable. C'est à cause de Christ que le rideau s'est ouvert. Hein. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que nous pouvons être unis, en nous-mêmes je parle, hein, nous approcher entièrement de lui, parce que de toute façon, c'est uniquement à cause du sacrifice de Christ qu'on peut le faire. Et donc j'ai plus de raison de me sentir bien les jours où je pense que j'ai bien fait, puis de m'approcher de Dieu, genre, pas égo mais presque, hein, vous savez, salut Dieu, ça va ce matin hein. Parce que ce matin, je me suis levé à l'heure, j'ai prié, j'ai lu mon texte, j'ai pas jeté un coup d'œil par la fenêtre à la voisine qui prenait sa douche. J'ai fait tout bien ce matin. Alors je m'approche de Dieu, puis le lendemain, j'ai tout fait à l'envers. Je me suis levé trop tard, j'ai pas lu mon texte, j'ai jeté un regard où il fallait pas, j'ai pensé ce qu'il fallait pas. Et là, j'aimerais mettre ça derrière et si je dois faire ma petite prière du matin, c'est Dieu. Hein. Non. Approchons-nous avec un cœur entier. Sincère, là, il est dit, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, la plénitude, ce n'est pas une foi qui est sans erreur, sans question. Hein. Mais là encore, c'est un mot qui rassemble. Avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous savons sur Dieu, avec tout ce que nous ne savons pas, avec nos questions sans réponse, on prend tout et on s'approche de Dieu. On ne trie pas, on n'en a pas besoin. Hein. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, il fait allusion à tous les rituels qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu. Et puis, il dit, c'est fait autant pour la culpabilité qui est en nous, pour tout ce qui est intérieur, que pour tout ce que nous avons pu faire dans le monde visible et qui n'est pas bon. Hein. Une conscience purifiée et le corps lavé. C'est pas le fait qu'on prend une douche avant de s'approcher de Dieu. Mais c'est voilà, la conscience, c'est ce qui est intérieur, et la culpabilité pour tout ce qu'on sait qui est mal fait. Et puis ce corps lavé, c'est ben oui, je fais aussi des choses mal dans le monde visible, avec ou sans mon corps, mais par mes actes, etc. Et on a été déclaré juste par Christ pour tout. Et ce qui fait qu'on peut s'approcher de lui, voilà, c'est moi. Avec tout ce que je suis. Hein, et je m'approche de lui. Mais c'est à moi de le faire. Parce que lui, de son côté, l'accès est libre, tout est prêt, la connexion est faite. Et c'est moi qui dois. Hein. Et c'est de là que vient cette légende chrétienne qu'il faut avoir son culte tous les matins. C'est vrai qu'il faut s'approcher. Alors, si ça devient justement le truc qu'on fait vite fait un quart d'heure comme ça, j'ai la conscience tranquille et j'ai plus besoin de vivre avec lui toute la journée, c'est mauvais. Hein. Mais l'enseignement qui nous a été peut-être transmis pour certains ou pas, mais hein, qu'il fallait tous les matins commencer sa journée par un culte avec Dieu, il est bon si on comprend ce que ça veut dire. Il est mauvais si on l'utilise comme un acte religieux pour se débarrasser des devoirs spirituels. Voilà, j'ai fait mon truc. Hein. Puis chacun a le sien. Hein. Pour certains, c'est un chapitre, d'autres, c'est le lecteur, l'autre, c'est je ne sais pas quoi, lire expresso 3 minutes. Mais voilà, j'ai fait mon devoir spirituel. Non. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'on a besoin de se reconnecter sans cesse, ou pas de se reconnecter, mais d'utiliser la connexion qui est disponible pour s'approcher de Dieu. Hein. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais en fait, il est déjà là, lui, de son côté. Hein. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, c'est le verset 23. Et le mot là pour retenir, il est très très fort. Littéralement, garder prisonnier, séquestrer, hein, empêcher de repartir. Retenons fermement. Et puis il est complété par le mot fermement, hein, qui veut dire sans plier, sans s'incliner. Sans faiblir. Donc c'est deux mots très très forts qui sont mis ensemble, et si cet avertissement est là, c'est que ça correspond à quelque chose. C'est que cette espérance, alors pas l'objet de l'espérance, Christ il bouge pas, Dieu il part pas, etc. Mais pour que cette espérance nous l'approprions, qu'elle fasse partie, qu'elle soit incorporée dans tous les aspects de nos vies tout au long de nos journées, on doit la capturer et la garder. Parce que naturellement, on n'est pas comme ça. Le monde dans lequel on vit n'est pas comme ça. Les activités ne vont pas dans ce sens-là. Il n'y a rien qui naturellement fait qu'on reste pleinement en possession de l'espérance. Et c'est pour ça que très facilement, on la remplace par des ersatz, par des contrefaçons. Un mot plus simple, hein, d'espérance. Au lieu de garder cette espérance qui est Christ en nous, ben, on a tous nos techniques. Hein. Faire des choses, regarder des séries, boire un coup, aller voir les toiles, acheter des trucs, j'en sais rien. On a chacun nos choses à nous. La chose en elle-même n'est pas mauvaise. Hein. Elle pourrait même, dans certains cas, être utilisée pour vivre avec Dieu. Mais souvent, parce qu'on n'a pas su capturer l'espérance et la garder en nous, le vide qui est là en nous fait que ben, on va plus facilement se remplir avec autre chose. Parce que instinctivement, c'est plus facile de faire ce qui est ma méthode à moi pour combler mon vide que de capturer l'espérance et de la garder. Hein. Pour moi, c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un livre quand je me sens vide que de faire face au vide et de dire à Dieu, remplis-moi. Hein. Et donc, encore une fois, même des choses très très bonnes. Hein. J'aime beaucoup marcher, je médite souvent dans la nature. Donc ça peut être un endroit magnifique pour rencontrer Dieu. Mais des fois, le fait de marcher et de contempler la nature qui est magnifique, c'est une façon de fuir la recherche de la présence de Dieu ou l'absence de Dieu en moi dans ma... Hein. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Vous savez, quand pour ceux les plus âgés, hein. Ça c'est spirituel, ça c'est pas spirituel, comme on disait à une époque. Hein. C'est complètement faux. C'est l'utilisation qu'on fait des choses. Alors, je ne parle pas ici de ce qui est mal. Hein. Mentir, voler, tuer, tromper, c'est jamais bien. Mais tout le reste qui sont des choses neutres, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et on est appelé à s'approcher de Dieu, puisqu'il n'y a plus de problème de notre péché, plus un problème. Si j'ai péché, je dois le confesser à Dieu. Hein. Mais ce n'est plus mon manque de perfection qui m'empêche, l'accès est ouvert. Par contre, c'est à moi de m'approcher et c'est à moi de garder captive, entre guillemets, cette espérance en moi, cette conscience de sa présence, de sa pensée, de ses valeurs, de la vérité, de ce qu'il est, etc. Et c'est un combat. Et c'est ce qui amène à la suite. Hein. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, hein, que nous confessons, que nous avons exposée. En fait, on doit à la fois passer toutes nos vies chrétiennes à améliorer, préciser la connaissance qu'on a de Dieu, hein, ce qu'on dit croire, ce qu'on pense de Dieu. C'est pour ça que on devrait tous avoir, quelle que soit notre méthode, toutes nos vies, on devrait être en train d'étudier la parole de Dieu. Là, je ne parle même pas de méditation, de juste la comprendre mieux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chacun avec sa méthode, chacun avec ses outils, chacun à ses façons, chacun à son rythme. Hein. Parce que je m'accroche à quoi si je ne sais pas à quoi je m'accroche? On ne s'accroche pas à juste une impression ou un sentiment. Mais ces choses que nous savons de Dieu, donc c'est la première partie du processus, comprendre, ça ne suffit pas. Et je dois les tenir fermement et puis qu'elles fassent partie de ma vie et les incorporer, parce que c'est elles qui produisent cette espérance. Hein. L'espérance vient de l'amour qui est en nous, mais par cette compréhension de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il attend de nous aussi, de ce qu'il nous demande, on dirait en termes aujourd'hui, nos droits et nos devoirs. Hein. Et ça nous amène à sortir de ce qui est peut-être un des grands pièges de notre époque, cette conception du Dieu confort. Hein. Dieu est là pour moi, c'est vrai. Hein. Dieu est là pour mon bien-être, c'est vrai. Hein. Mais c'est qu'une partie de la vérité. Hein. Il y a des conséquences positives pour ma vie à avoir rencontré Christ, à accéder à lui, mais il n'y a pas que ça. Ça implique aussi des responsabilités, des engagements, des décisions, et de s'attacher à la vérité, etc. Et ça, on a besoin de faire ce travail en permanence, et ce n'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Alors, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Du côté de Dieu, pas de souci. Lui, il ne va pas changer. Hein. Il n'y a pas des heures d'ouverture. Vous savez, le voile a été déchiré, mais à certaines heures, il est refermé, parce que après 17h, c'est fini, le week-end, c'est fini, les jours fériés, c'est fini. Non, lui, il est fidèle, ce qu'il a fait, c'est fait une fois pour toutes. Il n'y a aucun souci de son côté. Mais pour nous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est tellement pas simple et naturel de s'approprier cette espérance, de vivre dans cette conscience de sa présence, et en même temps, c'est comme capturer du sable sec dans les mains ou de l'eau, tout d'un coup, on n'en a plus. Et ça a été dur pour l'heure, et puis on n'en a plus. Et là, on arrive au verset suivant, aux deux versets suivants qui sont magnifiques et que j'aime beaucoup, mais qu'il faut garder tout le reste en tête. On pourrait rajouter un « c'est pourquoi », il n'est pas dans le texte, mais avant le verset 24. Mais à cause de tout ça, de cette difficulté, de ce devoir de garder l'espérance, de la capturer, de la garder, de vivre avec un cœur entier dans la présence de Dieu, veillons les uns sur les autres pour nous inciter, nous exciter à l'amour. Non, mais le mot est très intéressant. Hein. Mais d'abord, veillons. Le mot veiller ici, c'est à la fois consoler, prier, exhorter. Hein. Ouais. Et puis, il veut dire aussi apercevoir, remarquer, considérer attentivement, garder les yeux ou l'esprit tournés vers. Veillons sur les uns sur les autres, ça veut dire que on doit garder un contact. Hein. Alors, pas dans le sens « qu'est-ce que tu fais, tu étais où, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu n'étais pas là ?» On ne parle pas de ça. Hein. Mais de se sentir, entre guillemets, responsable de l'autre. Pas de son emploi du temps, de ce qu'il fait de son argent, de où il va, où il ne va pas, mais responsable de son bien-être spirituel, de où il en est dans cette capture de l'espérance. Hein. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi ? Parce qu'avec tout ce qu'on a vu avant, Dieu, lui, de son côté, tout est fait. Nous, on a notre part à faire et elle n'est pas facile. Elle n'est pas naturelle et elle n'est jamais acquise. Tout ce qu'on a, pouf, ça part sans arrêt. Hein. C'est, je vous dis, c'est essayer de capturer de l'eau avec les doigts. T'as beau essayer de le garder, ça part toujours quelque part. Et donc, à cause de ça, on doit garder un regard les uns sur les autres. Encore une fois, ni inquisiteur, ni contrôleur. Mais on vit à une époque tellement individualiste, et à cause d'excès, certainement. Dieu, moi, c'est bon, mais les autres, comme je veux, quand je veux. Et oui, dans le sens où on est responsable devant Dieu uniquement et on est pleinement libre de faire ce qu'on veut. Mais en même temps, il faut être conscient que, et c'est comme ça que Dieu l'a voulu, c'est pas possible tout seul. Ça ne veut pas dire que je vais aller en enfer si je vis ma vie chrétienne tout seul, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est pas possible de garder cette espérance vivante en nous tout seul. Alors là, comme dans tout le reste, dans tous les domaines de la vie, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui aiment être avec les autres, il y a des gens qui n'aiment pas être avec les autres. Comme ça. Il y a des gens qui sont disciplinés, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui comprennent bien ça, il y en a qui... Dans tous les domaines de la vie, on n'est pas égaux. Mais la réalité, elle est que ce soit naturel chez nous ou pas, ce n'est pas possible de vivre correctement sa vie chrétienne tout seul. Et en même temps, ce n'est pas juste moi qui dois m'accrocher aux autres, entre guillemets, c'est aussi les autres qui doivent prendre soin de moi, mais dans tous les sens. Hein. Alors, encore une fois, et j'insiste beaucoup parce que c'est un sujet qui me touche, ça ne donne pas le droit à quelqu'un de venir sonner chez vous, pourquoi on ne t'a pas vu hier soir à la réunion de prière, ou qu'est-ce que tu fais avec ta vie, ce n'est pas dans ce sens-là. Hein. Mais c'est dans le sens de ce qu'on a pu voir manifester ce matin dans la première partie de notre rassemblement. On est concernés les uns par les autres. Hein. On apprend une nouvelle et on pleure. On apprend une autre nouvelle et on fait la fête. Pourquoi ? Parce que il y a ce lien entre nous, parce qu'il y a cette fraternité qui vient du fait que on est tous différents, mais on a une chose essentielle en commun. On a l'accès auprès du Père par le même moyen. Et puis surtout, on a cette connexion et naturel et supernaturel qui passe directement par Dieu et qui fait qu'on est liés les uns aux autres. Hein, et qu'à la fois, il y a une partie tout à fait humaine. Hein, Jésus, par exemple, il avait ses 12 disciples, il aimait tout le monde comme pareil, etc. Et puis, il y en avait deux, c'était ses potes, ceux avec qui il était plus humainement proche. Hein, et il faut les deux. Hein. Mais il y a aussi ce mystère de la communion, ce que nos amis catholiques appellent la communion des saints, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui fait qu'on rencontre un croyant qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît de nom, ou un tout petit peu, et pendant un moment particulier, on est connecté aussi proche ou plus proche qu'avec notre meilleur ami. Parce que dans ce moment-là, on n'est plus par la connexion d'amitié classique qui vient du temps passé ensemble, du vécu, des choses partagées, mais par une autre connexion qui est « je suis connecté à Christ, il est connecté à Christ », et dans ce moment particulier, on est connecté comme ça, hein. Un exemple pour à peu près tout le monde comprend ça. Hein. Moi, je vois chez moi, j'ai ma Wi-Fi qui marche, plus ou moins bien des fois d'ailleurs, et puis j'ai mon Atel avec la 4G. Hein. Et je peux me connecter par l'un ou par l'autre. Alors, ça fait beaucoup d'ondes dans la maison, d'accord, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Et des fois, ça marche plus avec une connexion et je passe par l'autre. Hein. Paf, paf. Et c'est la même chose. Et il y a cette connexion spirituelle, et puis il y a des choses qui sont humaines, mais qui sont bonnes, voulues par Dieu, et on doit combiner ça pour prendre soin les uns des autres, hein, et pour nous inciter, exciter à l'amour. Le mot utilisé ici, c'est un mot qui peut être positif ou négatif. Hein. En fait, il parle de déclencher quelque chose. C'est on dit catalyseur, c'est ça, dans une expérience, quand on met quelque chose pour que ça, hein, autre chose se passe, voilà. C'est ce qui fait que quelque chose se passe. Hein. Alors, ça peut être quelque chose de négatif, et ce mot dans le Nouveau Testament, il est utilisé dans les deux sens. Hein. Si j'embête tout le temps quelqu'un, j'embête tout le temps quelqu'un, j'embête tout le temps quelqu'un, je produis de l'agressivité, de la rancune, etc. Mais là, le mot est utilisé, évidemment, dans le contexte, dans un sens positif. C'est-à-dire, je devrais être la petite étincelle qui rallume, hein, le petit souffle sur les braises qui, pouf, ça repart, hein, le petit apport qui fait que, ben oui, c'est pas moi qui fabrique la vie de Dieu dans l'autre, elle est là, c'est pas, mais je le ranime. Hein. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a, j'imagine ici tout le monde connaît ça, mais qu'on a besoin et d'expérimenter et de comprendre et de rechercher dans les deux sens. Alors, moi, j'ai beaucoup de handicaps dans ma vie, et je ne dis pas ça en plaisantant, c'est comme ça, mais j'ai eu un domaine, en tout cas, où j'ai de la facilité, c'est que même si j'ai besoin de solitude par moment, mais j'aime bien être avec les gens. Et c'est la raison pour laquelle je suis pasteur, c'est pas parce que vous avez besoin de moi, c'est parce que j'ai besoin de vous. C'est très égoïste, tant pis, mais vous le savez, j'ai déjà dit, mais c'est vrai, c'est pas une blague, hein. C'est qu'en fait, je le vois quand je suis en vacances, j'apprécie mes vacances, c'est super, hein. Mais c'est des moments où je vais rarement bien spirituellement. Pas mal, mais c'est moyen. Pourquoi ? Parce qu'il me manque cette excitation, ce petit incitation, cette petite étincelle pour animer les choses en moi. Comme je suis extrêmement paresseux, si c'est juste pour moi, bon, Dieu ne va pas disparaître. Hein. Voilà, on verra demain. Mais quand je vous rencontre, il se passe ce petit qui fait que ah, ça se rallume, hein, et ça repart. Voilà, vous savez pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en plus je suis payé pour ça. Ça c'est pour ça que je suis très très reconnaissant. Hein. Je suis payé pour me soigner, quoi. Vous voyez un peu le truc. Merci. Nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Et là, je vous encourage à relire, c'est pas un ordre, mais je vous encourage vivement à relire le texte qu'on vous a envoyé, imprimé, donné sur notre vision pour 2009. Hein. Le fruit, 2019, je dis 9. Éric et moi, entre autres points communs, le temps et l'espace, on s'en fout un peu. Hein. Jeudi, vendredi, 19h, 9h, 2000, non. Ce qui compte, c'est ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu, n'est-ce pas ? On se comprend. On a la même machine à remonter le temps. Ça marche à la vapeur. Mais dans ce texte de 2019, notre vision pour l'année, hein, c'était d'ajouter aux fruits les bonnes œuvres. Pas les bonnes œuvres, ou les œuvres bonnes, si vous préférez, que Dieu a préparées. Parce que le fruit de Dieu en nous, qui est la paix, la joie, l'amour, hein, c'est un fruit, c'est pas des fruits, il doit à un moment bourgeonner en œuvre. Chose que Dieu a préparée d'avance pour nous, pour que nous y marchions dedans, littéralement. Alors ça se traduit pour chacun différemment. Hein. Thierry, arrivé à la retraite, a découvert que l'œuvre bonne que Dieu avait préparée pour lui et pour travailler sa patience, c'était de s'engager pour Croissance Afrique, par exemple. Hein. Voilà, ça c'est une œuvre bonne, c'est pas le fruit. Le fruit, c'est ce qui a en lui, l'amour, la paix, la joie, la patience, mais il y a cette œuvre bonne et d'autres qui se sont ouvertes à lui, hein. Par exemple, m'aider à faire ma déclaration d'impôt, c'est une œuvre bonne qui fait, hein, qui travaille aussi sa patience, etc. Hein. Et donc on voit que, en fait, cette excitation, ce déclenchement, ce catalyseur sur la vie de Dieu et l'amour qui est en nous, va nous aider à vivre plus dans l'amour de Dieu, et que, parce que l'amour de Dieu est en effervescence, est en ébullition, est en action, est activé en nous, il va déboucher sur les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Et ça, les autres ne peuvent pas nous dire ce que c'est. Hein. Pour l'un, ça va être quelque chose de visible. Voilà, pour le moment, Virginie a été appelée à s'occuper de quartier libre. C'est visible, c'est super. Pour d'autres, ça va être prier discrètement dans sa cuisine ou en marchant et personne ne le voit. C'est pas important, mais c'est une œuvre bonne qui est préparée pour nous. Hein. Aller visiter quelqu'un, peu importe ce que c'est. Et voilà, on le fait ensemble. Et puis on arrive à ce fameux verset 25, il y est aussi ? Ouais, il y est. Alors c'est amusant parce que j'ai consulté toutes les traductions à ma disposition en français. Et normalement, quand il y a un texte un peu particulier, il y en a toujours au moins une ou l'autre qui traduit correctement, quoi. Là, elle traduit de toutes faux. N'abandonnez pas votre assemblée. Ben, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est pas n'abandonnez. Enfin, si, Darby traduit presque bien. Pardon, Darby. Hein. N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même. Ça, c'est le mot à mot dans le grec. Hein. C'est-à-dire, n'arrêtez pas de vous. En gros, c'est ne restez pas seul. Hein. D'accord. Donc, déjà, ce que ce verset ne veut pas dire, ça ne peut pas vouloir dire ne changez pas de communauté locale, parce qu'à l'époque où ça a été écrit, il y en avait une. Hein. Donc ça, l'auteur ne pouvait même pas penser à ça. Il n'y avait pas les si, les istes, machin, et autres. Hein. Il y avait une seule communauté de chrétiens qui n'était déjà pas immense. Donc le texte ne peut absolument pas être appliqué à « si vous êtes dans une église, vous n'avez pas le droit d'en changer ». Ça, c'est faux, c'est stupide, c'est pas vrai, c'est méchant. Bon, voilà, dégagez. Deuxièmement, ça ne veut même pas dire « venez au culte le dimanche matin ». Ça dit simplement, mais par contre, ça dit fortement « vous avez besoin de vous rencontrer les uns les autres pour vous exciter à l'amour et aux œuvres bonnes ». C'est une obligation, pas une obligation dans le sens « si vous ne le faites pas, vous serez condamné, vous allez en enfer ». C'est « si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas vivre la vie chrétienne correctement, vous allez en souffrir ». On a le droit de souffrir. Hein. Si je choisis de mal manger toute ma vie, je vais attraper des maladies, je vais en souffrir. J'ai le droit de le faire, il n'y a aucun souci. Dieu m'aime autant. Je me fais du mal à moi-même, mais j'ai le droit. Hein. C'est dans ce sens-là. Hein. Donc, n'abandonnons pas de nous rencontrer dans ce but-là, de nous encourager à l'amour, comme certains en ont l'habitude. Là, le contexte, c'était qu'en fait, c'est un peu particulier, il y avait des persécutions violentes, hein, on parle de mort éventuellement, et de persécutions très très fortes, prendre les biens matériels. Et donc, ça faisait peur à certains croyants, et par peur, ils arrêtaient de se retrouver avec les autres chrétiens pour ne pas s'afficher avec eux. Et là, l'auteur de cette lettre, il dit, c'est tellement vital que, laissez pas tomber les gars, même si c'est dangereux, même si c'est risqué, faites-le sagement, hein. Peut-être au lieu de vous retrouver le dimanche matin à la vue de tout le monde, retrouvez-vous dans la forêt le samedi soir, peu importe. Mais restez pas tout seul, parce que vous n'y arriverez pas. Vous avez besoin les uns des autres. Là aussi, chacun a son rythme, à sa façon, c'est nous qui contrôlons, hein. C'est pas quelqu'un qui impose. Et encourageons-nous mutuellement, et faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour, c'est le jour du retour de Christ. Hein. Alors pour nous, c'est un peu différent, parce que ça fait 2000 ans qu'il nous dit qu'il vient bientôt, donc on a tendance à moins le prendre au sérieux. Quoi, hein. Ouais. Il vient bientôt, c'est quand hein. Mais ça, c'est quelque chose que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais qu'on reprendra une prochaine fois, et je pense que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup, et qui me manque aussi, enfin, qui me manque à moi, d'abord. C'est de vivre dans cette attente du jour de Christ. Ce n'est pas le fait de ne plus rien faire parce que Jésus va revenir. Hein. Je vous ai déjà raconté que quand je me suis converti, j'avais 10 ans et demi. Et puis au bout de 6 mois, l'enseignante à l'école a convoqué mes parents parce que je n'ai jamais été une flèche à l'école. J'étais dans la moyenne. Quoi. Voilà. Et puis tout d'un coup, plus rien. Quoi. Plus aucun devoir, rien n'était fait. Quoi. Puis mes parents vont là-bas, ils apprennent ça. Puis ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben, dites que Jésus va revenir, donc j'ai 10 ans, j'arriverai jamais à 20 ans, donc pourquoi je travaillerai à l'école quoi. C'était évident, comme on en parlait, que ouais, je pouvais vivre, j'aurais peut-être 12 ans, 13 ans, mais j'arriverai même pas au BEPC. Quoi. Donc, comme le travail pour rien, c'est pas ma spécialité, ben, j'avais facilement renoncé à tout, parce que Jésus revenait. Alors, c'était pas bien, j'ai repris, voilà. Mais. J'ai mal tourné, hein. Je suis devenu pasteur, vous voyez un peu quoi. mais en même temps, de vivre avec cette espérance de rencontrer Christ un jour face à face, mais aujourd'hui en même temps, hein, les deux. Et on a besoin de creuser ça. Et ça, c'est, vous pouvez y réfléchir, on le verra une prochaine fois. Seigneur, on te remercie parce que c'est toi qui as prévu ce qu'il fallait pour qu'on puisse vivre notre vie avec toi décemment, correctement, même avec joie. C'est pas à nous de. On ne peut pas changer ces choses-là, mais on te demande que tu nous donnes la compréhension, l'envie, la motivation, et que nous puissions continuer comme nous le faisons déjà, mais toujours mieux, toujours plus, de nous encourager à l'amour, de nous exciter à l'amour et aux œuvres bonnes que tu as préparées pour nous. Que nous puissions continuer d'être des encouragements les uns pour les autres. Et on te remercie parce que tu as prévu cela. Amen. J'ai oublié de dire deux petites choses qui sont liées avec ça. Hein. C'est que quand j'ai rencontré Fred, enfin, on s'est vu vendredi matin, hier on s'est téléphoné, puis il m'avait dit, je ne pense pas que je pourrais venir ce dimanche matin parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai dit, bien sûr, évidemment. Puis ce matin, il était là. Et puis on discutait, et puis où je serais mieux que là. Et Moi, ça me touche, quoi. Parce que si l'église, c'est pas l'endroit où j'ai vraiment envie d'aller quand ça va pas, ben alors c'est pas l'église, elle sert à quoi, hein. Et je me rappelle toujours, je pense Caroline m'autorise à la citer, le dimanche matin qui a suivi le décès de Pascal, où je me disais, il n'y aura personne, parce qu'on est tous tellement remués, moi je dois y aller parce que voilà, je suis obligé. Mais, hein. Et puis, il y avait, presque tous les jeunes étaient là, en tout cas, qui ne sont pas tout le temps là, je veux dire. Hein, c'est, et puis, j'ai exprimé ma surprise, mais contente, et je me rappelle, Caroline a dit, où on pourrait être ailleurs un matin comme ça. Et j'étais là aussi encouragé et fier de notre... Waouh, c'est pas grave si quand ça va bien, on ne vient pas. Enfin, pis, ça serait mieux de venir, mais c'est pas grave, quoi. Mais au moins de se dire, quand vraiment j'ai un coup dur, c'est là où j'ai envie d'être, pas le lieu, hein, avec ces gens-là, ça doit être l'Église. Et ben, on doit compter, alors on est loin d'être parfait là-dedans, mais c'est des beaux témoignages et c'est ce qu'on veut toujours plus.